Bonjour, chers auditeurs de Radio Grand Ciel. Nous voilà dans notre émission consacrée à l'histoire, l'art et l'iconographie chrétienne. Et j'ai le très grand plaisir de vous parler aujourd'hui, ou plutôt de laisser parler notre invité d'aujourd'hui, qui est la grande spécialiste du vitrail ancien, Françoise. L'une des grands spécialistes du vitrail ancien, Françoise Gatouillac, nous fait l'amitié et le plaisir de venir dans notre studio. Et c'est à l'occasion de l'inauguration de la toute nouvelle exposition organisée à Chartres par le Centre international du vitrail, Les vitraux de la Renaissance à Chartres. J'avais envie d'appeler cette émission Le vitrail chartrain de la Renaissance, l'histoire d'une découverte, car effectivement ce fut une découverte dont vous allez nous parler, chère Françoise Gatouillac. Vous avez réalisé ce grand travail de redécouverte des thèmes iconographiques dans ce vitrail de Chartres avec Guy-Michel Leproux, qui est votre collaborateur, un ami dans le domaine du vitrail. Il est directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Donc, il a mené avec vous ses recherches sur le vitrail. Et vous-même, Françoise Gatouillac, vous êtes ingénieure de recherche et la grande spécialiste du vitrail ancien est recrutée par le ministère de la Culture également depuis 1974. Donc, vous avez eu le temps, effectivement, d'étudier le vitrail. Donc, bienvenue dans notre émission. Est-ce que vous pouvez peut-être effectivement nous dire qu'est-ce qu'il faut entendre par un vitrail ancien ? On parle du vitrail de la Renaissance, mais est-ce qu'il y a ce seul domaine qui vous préoccupe ?
Alors effectivement, la mission pour laquelle j'ai été engagée au sein d'une petite équipe de 4 personnes dans les années 70 consiste à faire un recensement exhaustif des vitraux anciens conservés en France. Alors ce recensement des vitraux anciens, ça veut dire que ça se passe, on prend tout ce que l'on connaît depuis l'origine, c'est-à-dire en général il y a guère de choses avant le XIIe siècle, jusqu'à la Révolution. Et on exclut de ces vitraux les très très nombreux vitraux qui ont été créés au XIXe et au XXe siècle.
Qui vont parfois imiter un peu le vitrail des époques passées.
Voilà, pour certains, il y a aussi une création très très dynamique au XXe siècle et au XXIe siècle. Mais disons que dès le départ, et surtout quand l'opération a commencé, il y avait un grand mépris pour les vitraux modernes. À la rigueur, on prenait en compte la création tout à fait récente des Chagall et autres d'artistes, mais on méprisait tout à fait tout ce qui avait été créé au XIXe siècle.
Alors le XIXe siècle, vous le connaissez également parce que vous avez étudié les vitraux de la Renaissance dans l'église Saint-Aignan. Et là, pour les Chartrains qui connaissent bien l'église Saint-Aignan, on a un ensemble de vitraux imitant le vitrail aussi de la Renaissance, fait par Lorrain.
Oui, absolument adapté au panneau ancien qu'il avait sous les yeux.
Donc les maîtres verriers du XIXe ont cherché à s'adapter.
Oui, même en regardant ça en détail, j'ai vu qu'il y avait ils s'efforcent autour des scènes de la jeunesse, par exemple, de faire des petits encadrements qui reprennent vraiment ceux de certains panneaux anciens, comme la fameuse verrière que nous datons des années 1505-1510, qui représente la parenté de la Vierge dans la même église.
Voilà,
qui a des très jolis cadres et ils sont reproduits dans
Alors, qu'est-ce qui caractérise donc le vitrail de la Renaissance? Quand on va dans l'église Saint-Aignan, on découvre effectivement des vitraux. On a du mal à déchiffrer parfois les scènes parce qu'il y a énormément de lignes noires qui sont les plans de casse. Est-ce qu'on connaît un peu
Moi, je dirais que c'est pas seulement pour ça. C'est que l'histoire même des vitraux de Saint-Aignan. Moi, j'étais déjà venue plusieurs fois à Chartres dans l'église Saint-Aignan. Et en réalité, c'est un ensemble qui résiste à l'analyse à première vue. Il n'y a pas grand-chose d'homogène. Et ça, c'est à cause de l'histoire de ce vitrage qui a été complètement démonté, certainement pendant la période de la Révolution, et redistribué parce que l'Église avait changé de vocation. On l'a vendu à un personnage qui était l'architecte voyer de la ville, d'ailleurs. Il l'a gardé pendant plus de 25 ans. Et puis, il a décidé de la rendre à la ville de Chartres et de la rendre au culte, donc, en 1823 seulement, en 1822. La négociation est signée à la fin du mois de décembre de 1822. Donc, c'est pas avant 1823 qu'on a remis dans cette église qu'on voulait remettre en service son mobilier, notamment ses vitraux qui étaient déposés dans un coin, dans l'intervalle. Et on les a redistribués comme on faisait à l'époque, c'est-à-dire avant d'avoir à nouveau un goût pour le vitrail qui va se développer à partir des années 1850. Là, on est un petit peu avant. Et ben, on s'en sert simplement comme d'une clôture. Donc, on les redistribue comme on peut. Et on mélange tout. Et on mélange surtout ce qui reste, parce qu'il y avait certainement eu pas mal de pertes à la faveur de ces...
C'est des ordres politiques.
De cette mise à l'abri, des désordres politiques ajoutés certainement, qui n'ont pas dû arranger les choses, parce qu'on sait qu'il y a eu un petit peu de vandalisme aussi.
Et nous verrons que on attribue beaucoup de destructions à la Révolution. Nous constaterons, et vous serez peut-être d'accord avec moi, qu'il a dû y avoir aussi des destructions au cours des guerres de religion. On sait que Chartres a été assiégée.
Alors on sait pour Saint-Aignan qu'il y en a eu précisément parce qu'une des verrières justement portait une inscription. Qui en témoignait. Et alors ça, c'était justement l'intérêt d'aller voir par le menu les documents qui sont conservés sur cette église Saint-Aignan. C'est que aux archives de l'Eure-et-Loire, il y a une petite feuille du chanoine Brion, qui était un des chanoines de la cathédrale au début du XVIIIe siècle. Et c'est une petite feuille qui se présente un peu comme un plan d'édifice où il a relevé les verrières. Alors, c'est pas vraiment un plan tracé comme un architecte, mais enfin, il localise comme ça un certain nombre d'œuvres, celles qui l'intéressent. Et sur la verrière de Saint-Denis, qui était côté cimetière, c'est-à-dire du côté sud de l'église, à droite quand on entre, il y avait une inscription qui rappelait que pendant les guerres de religion en 1568, elle avait subi des trous et qu'on les avait réparés juste après ça. Donc, cette verrière de Saint-Denis, il en reste quelques panneaux d'ailleurs qui sont dans l'église, mais pas cette inscription.
Ah oui, donc on voit qu'il y a eu des pertes entre-temps. Et on connaît donc assez bien le programme iconographique des verrières de la Renaissance à Saint-Aignan.
À travers ce qu'il dit, on peut localiser justement des verrières hagiographiques, puisque lui dit qu'en face de Saint-Denis, il y avait Sainte-Barbe. Donc là aussi, on a gardé deux ou trois panneaux de l'histoire de Sainte-Barbe.
Que l'on reconnaîtrait à sa tour. En principe.
Oui, mais là, on ne la voit pas dans sa tour. Là, on voit son père qui essaye de l'assassiner. Et on voit...
Rue de Meurs, à l'époque.
Et on la voit en prison. Donc, il n'y a pas sa tour. On la voit en prison, consolée par le Christ, ce qui est une très jolie image.
Alors, nous avons parlé un peu plus longuement de ces verrières toujours en place dans l'église Saint-Aignan, parce que l'exposition organisée au Centre international du vitrail montre des photographies de certaines verrières qui sont toujours en place à Saint-Aignan. On va faire une toute petite pause musicale, juste pour entrecouper. Après, Françoise Gatouillat va peut-être nous parler justement des verrières ou des liens entre les verrières de Saint-Aignan et les verrières qui sont exposées au Centre international du vitrail.
Sanctifici tuo nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo.
Chers auditeurs de Radio Grand Ciel, nous avons dérogé à une habitude qui m'était assez chère. J'avais l'habitude de mettre de la musique en conformité avec le sujet. J'aurais dû présenter un peu de musique de la Renaissance. Et là, vous avez entendu des prêtres qui chantent. C'est une découverte, la mise en musique moderne de chants anciens. Alors, nous sommes avec Françoise Gatouya, ingénieure de recherche à la direction des patrimoines. Le ministère de Culture lui a donné depuis 1974 la mission de recenser tous les vitraux anciens, donc antérieurs à la Révolution française. Et nous sommes en train de nous intéresser plus particulièrement aux vitraux de la Renaissance à Chartres, le vitrail chartrain de la Renaissance, car ce fut effectivement une découverte non seulement d'examiner ces vitraux qui ont été déposés de l'église Saint-Pierre, mais de découvrir que beaucoup de personnages de très haut en couleur dans le vitrail ont parfois ou certainement travaillé à Chartres. Donc, Françoise Gatouya, on parlait de l'église Saint-Aignan à Chartres avec les vitraux de la Renaissance, malmenés par différentes époques. Et là, peut-être vous pouvez nous parler de la redécouverte de ces vitraux qui se trouvaient dans d'autres églises dont on ignore un peu l'emplacement. Alors, mais on sait que la date de destruction.
Ceux qui proviennent de Saint-Pierre et que vous exposez en ce moment au Centre international du vitrail, dans une exposition qui est fort belle et que je recommande d'ailleurs, parce que je trouve que tout cela est fort bien mis en valeur. Alors effectivement, d'analyser tous ces panneaux, c'était un puzzle en réalité, ces vitraux. On sait que l'église Saint-Pierre de Chartres a toujours une collection extraordinaire de vitraux du XIIIe et du XIVe siècle. Mais après la Révolution, lorsque cette ancienne abbatiale bénédictine est devenue une paroisse, on a voulu boucher là encore les trous. Et il devait y avoir des trous dans le triforium, puisque dans ce triforium, on a installé un certain nombre de vitraux qui venaient d'autres églises. Et c'était très facile de faire son marché à l'époque, puisque énormément d'édifices religieux ont été détruits ou désaffectés à la Révolution. Donc le mobilier religieux était tout à fait disponible pour pouvoir être réutilisé ailleurs. Ça s'est fait d'ailleurs dans bien d'autres villes que Chartres. Et donc on a rempli les galeries du triforium dans le cœur, en tout cas dans l'abside, on a rempli cette baie avec des panneaux qui venaient d'autres églises qu'on avait récupérées comme cela et qu'on a retaillé pour pouvoir rentrer bien dans les formes qui s'agit, sans considération iconographique aucune, sans considération formelle non plus. Et il fallait ajuster ça et que ça fonctionne bien pour faire une clôture étanche. Alors, en plus, il semblerait que l'église voisine, qui était la paroisse de l'abbaye Saint-Pierre autrefois et qui était construite à son flanc nord, avait elle aussi des vitraux. Elle s'appelait Saint-Hilaire et cette église Saint-Hilaire, on en aurait enlevé justement, bon, elle a été rasée en 1804, mais on en aurait enlevé les vitraux qui sont les plus beaux de cette collection, et on les a réinstallés, semble-t-il, dans la première moitié du XIXe siècle, en tout cas, dans la chapelle axiale de l'église Saint-Pierre. Et là, on a gardé des panneaux qui sont, pour certains, en moins mauvais état que les autres, et qui sont dus à, semble-t-il, de très grands artistes, puisque
On voit tout de suite la coloration de ces verres qui sont magnifiques, une coloration dans la masse. Au moment où on produit le verre, on va ajouter des oxydes métalliques. Donc on voit que le savoir-faire des maîtres verriers est dans la continuation du grand savoir-faire des maîtres verriers du Moyen-Âge. Il n'y a aucune rupture.
Aucune rupture, et même jusqu'à maintenant, je dirais.
Est-ce qu'on sait quelque chose sur les ateliers? Vous avez quand même pu identifier apparemment des artistes qui ont travaillé à Chartres pour cet ensemble de verrières.
Pour ce groupe, le plus prestigieux, je dirais, je ne sais plus comment ça, on a intitulé le.
Est-ce que c'est l'arbre de Gessé,
le chapitre? Alors moi je dirais que c'est effectivement l'arbre de Gessé et
que l'on voit tout de suite quand on rentre dans le centre international vitrail,
et ce qui reste de la vie de la Vierge qui correspond à ce qu'on peut appeler l'apogée du vitrail à Chartres à ce moment-là, à la Renaissance. Chartres en principe est associé plutôt au XIIe, au XIIIe siècle et aux verrières de la cathédrale, mais là on avait aussi de très grands chefs-d'œuvre qui ont moins bien vécu que les verrières plus anciennes, mais qui sont quand même à la fois dues certainement à un peintre verrier local, et on a pu, en travaillant sur une, à partir d'une des verrières documentées de Saint-Aignan, voir que vraisemblablement c'est Jean Jouan, qui est un, grâce aux archives qui ont été dépouillées par Maurice Jusselin, déjà, enfin, publiées au début du XXe siècle, on a vu que cette verrière de Saint-Michel, qui sert d'ailleurs de couverture au catalogue et
super ouvrage,
qui sert également d'affiche, on a cette verrière de Saint-Michel de l'église qui est documentée et qui est posée le 1er avril 1547 par ce maître verrier Jean Jouan. Bon, quand on regarde les plus beaux panneaux qui sont conservés provenant de l'église Saint-Pierre et qui sont dans l'exposition, on peut certainement les attribuer également à ce même verrier chartrain. Alors c'est vraiment un chartrain. Mais toute la science de mon collègue Guy-Michel Leproux a pu démontrer que les cartons qu'utilisait Jean Jouan, en tout cas pour la verrière qu'on peut également lui attribuer dans Saint-Aignan, et qui est l'histoire de Saint-Pierre et Saint-Paul, enfin les deux apparitions du Christ à Saint-Pierre et Saint-Paul, et également cette superbe scène bien conservée de la circoncision, et puis d'autres panneaux en moins bon état, mais tout ça a été dessiné par Jean Cousin. Et Jean Cousin, c'est le grand peintre de la Renaissance en France. C'est...
bien connu dans le monde du vitrail. Alors je vous rassure tout de suite, les futurs visiteurs du Centre International Vitrail, vous avez donc, on a à côté de chaque panneau mis en valeur au Centre International Vitrail, le panneau qui explique le sujet iconographique, et nous avons rajouté un lexique qui permet aux visiteurs, moins avertis des thèmes iconographiques représentés, de plonger un peu effectivement dans ces thèmes religieux, oui, qui vous ont permis, par votre grande connaissance de ces thèmes, de les resituer dans des cycles iconographiques. Car il faut quand même dire aux gens, vous ne verrez pas les verrières entières. Les,
oui,
verrières du XVIe,
absolument,
ont été morcelées, oui, endommagées, donc on a parfois, oui, que certains panneaux qui proviennent de très grandes fenêtres, de grands cycles, mais c'est tellement beau que le visiteur est effectivement ébloui par la beauté, la coloration, le savoir-faire de ces verrières. Alors comment est-ce que vous avez découvert ces verrières, comment est-ce qu'on vous les a présentées? Dans des caisses?
Alors effectivement, dans le dépôt du CIV où elle se trouvait, où les panneaux avaient été réunis, regroupés, parce que pendant un moment, ils ont été un petit peu dispersés. Il y en avait une partie à Paris. Moi, je connaissais déjà l'un des rois de l'arbre de Jessé, parce que toute jeune, en 1975, on me l'avait montré au dépôt des monuments historiques de Champs-sur-Marne. Et donc, j'en avais fait des diapositives que j'ai utilisées 1000 fois dans des conférences, enfin, sans savoir du tout que c'était du Jean Cousin et du Jean Jouan, mais enfin, ça me semblait un très très bel exemple de vitrail de la Renaissance.
Donc une grande dispersion.
Je m'en suis servi beaucoup. Et puis, il y avait également avec quelques panneaux de l'histoire de la Dormition de la Vierge, parce que je ne sais pas pourquoi on avait trouvé que c'était joli. Et en 1939, on les a déposés au musée de Cluny. Et puis après, ils ont rejoint ce dépôt des monuments historiques
à Champs-sur-Marne,
quand il a été créé en 1966.
Donc, beaucoup, oui, de panneaux dispersés qui
appartiennent... Le reste était resté à Chartres. Le reste avait été déposé, enfin, tout l'ensemble avait été déposé en 1936, en fait, pour restauration.
La ville de Chartres est le propriétaire de ces vitraux et a confié effectivement au Centre International Vitrail le soin de restaurer pour une présentation dans le musée ces panneaux, et on vous a confié donc la mission d'examiner ces panneaux pour justement retrouver un peu les thèmes représentés, et on va en parler de cette découverte après une toute petite pause musicale.
Oh. ton prochain, prends-le par la main, montre-lui la route du ciel. Un jour dans le vent, le rire des enfants volera sans bruit de canon.
Nous sommes dans le studio de Radio Grand Ciel avec Françoise Gatouya, grande spécialiste du vitrail ancien, qui a réalisé avec Guy-Michel Leproux un travail impressionnant de redécouverte d'une école chartraine du vitrail de la Renaissance. Un superbe ouvrage, catalogue des vitraux de la Renaissance, vient d'être publié par le Centre international vitrail, qui a organisé l'exposition de ces vitraux, mission qui lui a été confiée par la ville de Chartres, propriétaire de ces panneaux, qui proviennent de différentes églises chartraines. Et je voulais poser à Françoise Gatouya justement la question, comment est-ce qu'on procède quand on se retrouve, que ce soit dans un atelier de restauration, en l'occurrence au centre du vitrail, en face de panneaux qui sont lacunaires. Il y a des inscriptions qu'il est parfois malaisé de déchiffrer, avec, si je pense à un panneau qui représente la fuite de la Sainte Famille, où on ne voit plus que des pieds. Comment est-ce que vous procédez?
Alors, on ne voit plus que des pieds, mais on voit quand même qu'il y a des pieds de l'âne. Ce qui aide à deviner de quoi il s'agit.
Vous donnez la clé, effectivement, de la réponse.
Mais c'est vrai que, on peut deviner à travers la disposition de ses pieds, parce qu'il y en a, toute une série, là, que Saint-Joseph devait tenir l'âne par le licol en tête, et que l'âne était suivi, la marche du convoi était fermée par deux anges dont on voit les tuniques qui volent au vent.
Donc vous pouvez vous appuyer sur une grande connaissance de tous ces recueils hagiographiques comme la légende dorée de Jacques de Voragine, qui raconte justement dans les détails comment la Sainte Famille se mit en marche. Et c'est donc grâce à ce code un peu aussi iconographique.
Moi je vous dirais que pour ce qui concerne généralement la vie du Christ, bon, et la vie de la Vierge elle-même, c'est des choses qu'on a rencontrées assez universellement, donc il n'y a pas trop de mystère. En revanche, être sûr que la grande verrière de Saint-Claude, qui est présentée en morceaux, mais qui est malgré tout très très spectaculaire dans l'exposition, est-ce qu'il s'agissait bien de Saint-Claude ou de quelqu'un d'autre? Ça nous a paru plus compliqué à affirmer. Donc là, on a été regardé dans les Bollandistes, parce que ça, c'est pas dans la légende dorée, Saint-Claude, on n'en parle pas. Et on a vu que, alors effectivement, il y a des épisodes qui correspondent à l'histoire de Saint-Claude, parce qu'il y a des personnages qui regardent en l'air comme ça et qui écoutent un ange. Et l'ange leur dit « ne craignez rien », puis après il manque des éléments, Dieu et lire. Bon. Et en fait, ça correspond effectivement à l'élection de Saint-Claude, qui est commandée par voix divine, transmise par un ange, si vous voulez. On dit au brave clergé de Besançon qu'il faut aller chercher Saint-Claude dans le monastère de Saint-Oyant, et c'est lui qui sera le prochain archevêque.
Donc, première étape, quand on a une dizaine de panneaux qui formaient partie d'un plus grand ensemble, d'une vingtaine peut-être, même trentaine, on ne sait pas exactement la taille de cette immense verrière.
Là, quand même plus de la moitié.
Donc, on identifie déjà par ce code iconographique la mitre de l'évêque, donc on sait qu'il s'agit de...
Alors, on voit une scène d'intronisation déjà.
D'intronisation, donc on est déjà sur la piste. Mais comment est-ce que vous découvrez le nom de Saint-Claude? Est-ce qu'il y avait une inscription?
Alors, il y avait en plus des petits fragments d'inscription qui ne sont plus portés sur la verrière, mais qui sont dans des fragments isolés qui traînaient ailleurs.
Et là, il faut soupçonner que ces fragments sont en rapport avec cette grande
verrière. Comme il y a quand même des inscriptions restantes dans l'histoire de Saint-Claude, qui légende les deux scènes, le type de caractère qui correspond, en fait, et qui met Claude, Clade, quelque part, bon, enfin, on a deviné que ça a marché avec.
Est-ce qu'on sait qui est cet évêque Saint-Claude? On peut le situer dans l'histoire de l'Église?
C'est un archevêque de Besançon qui vit, je crois, me rappeler, à la fin du 6e siècle.
Alors, n'est-ce pas étonnant de mettre un évêque
sans ma documentation.
Est-ce qu'il n'est pas étonnant de trouver l'histoire de Saint-Claude de Besançon ici à Chartres? Comment peut-on expliquer le lien? Est-ce qu'on a une idée? Alors, pas du tout, peut-être. Ou juste l'idée d'un évêque qui est élu par, la voix divine.
C'est vrai que je n'ai pas posé cette question et que ce n'est pas tellement répandu, mais en revanche, ça n'est pas réservé en tout cas au Jura, puisque dans l'église Saint-Bonnet de Bourges, par exemple, il y a une verrière de Saint-Claude aussi, avec plusieurs scènes. Conçue dans les années 1530, enfin à peu près contemporaine de celle-ci.
Oui, mais continuez, on faisait juste un petit signe.
Donc et Bourges n'est pas plus près du Jura que Chartres.
Non, mais peut-être un évêque de Chartres était originaire de la région, il voulait peut-être mettre en valeur un évêque de sa région. On peut donc imaginer
Il faut surtout penser que beaucoup de ces choix hagiographiques tiennent pour les commanditaires ou pour le clergé à la présence de reliques. Et je crois qu'il faut appuyer sur cette question-là.
Donc on aurait eu dans cette
église... Parce qu'au départ, nous, on s'est dit, si ça vient de Saint-Hilaire, ce qu'on ne savait pas d'ailleurs, mais est-ce que ça ne serait pas Saint-Hilaire ? Donc on a recherché si l'iconographie de Saint-Hilaire de Poitiers, qui était forcément honorée dans l'église qui portait son nom, comportait des scènes comme celles dont on avait des morceaux là.
Donc c'est un vrai...
Et en fin de compte, ça
un roman policier, retrouver les traces...
Oui, c'est un petit côté enquête...
Alors on a donc aussi
la partie agréable du travail, je dirais aussi.
Alors vous avez reconstitué aussi différents autres cycles consacrés à la vie de la Vierge, à la dormition de la Vierge,
oui,
donc l'histoire de la Vierge qui
va
mourir.
Alors ça c'est intéressant à Chartres.
Donc c'est un thème que vous avez retrouvé.
C'est un thème que je connaissais déjà pour l'avoir vu en Normandie, en particulier à la cathédrale d'Évreux où il y a une grande verrière qui est parfaitement bien datée, 1465, et qui représente vraiment en 12 scènes cette histoire. Avec tous les éléments de la légende qui se trouvent dans la légende dorée, parce que là, ça tient une grande place dans la légende dorée. Et là, on a quelques épisodes conservés à la fois à Saint-Aignan, dans une verrière d'une très très belle qualité, que j'attribue à Pierre Courtois, qui était un peintre certainement originaire d'Évreux d'ailleurs, et qui l'aurait faite vers 1480, disons. Et l'autre qui est un cycle, le reste d'un cycle dont il y a des parties à Saint-Pierre. Et à Saint-Pierre, ce ne sont pas les mêmes scènes, ce ne sont pas les mêmes dessins du tout. C'est beaucoup moins chic. C'est quand même d'origine normande, les cartons, puisqu'il y a des visages très très caractéristiques avec l'orbe des yeux. Une chose qui m'est très familière parce que justement, il y a un atelier rouennais qui fait comme ça, vers 1470-80.
Donc l'histoire de ces vitraux au chartrain de la Renaissance, c'est la quête des thèmes iconographiques, la quête de l'origine de ces vitraux, quelles étaient les églises dans lesquelles se trouvaient
ces verrières. Je voulais ajouter que cette dormition de la Vierge... c'est aussi en faveur encore lorsqu'on fait la clôture du chœur de la cathédrale, puisqu'on commence par des scènes qui représentent justement, il y a deux de ces petits espaces théâtraux qui sont consacrés à la dormition.
Nous voilà donc dans le domaine des thèmes iconographiques de ces vitraux de la Renaissance. Rendez-vous est donné au Centre international Vitrail pour découvrir ces magnifiques vitraux de la Renaissance chartraines. Chartres, Centre international Vitrail, 02 37 21 65 72 pour vous renseigner des horaires d'ouverture. Merci beaucoup Françoise Gatouya pour cette introduction dans l'histoire d'une découverte du vitrail chartrain de la Renaissance. Nous allons nous retrouver prochainement dans une autre émission où nous allons aborder peut-être un peu l'histoire de l'école du vitrail à Chartres, ses maîtres et ses techniques. Chers auditeurs de Radio Grand Ciel, au revoir. Merci beaucoup Françoise Gatouya. Merci à Christophe Jubien pour la technique. Au revoir.
Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate le joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses, sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour me plaire.